Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Treize personnes ont péri hier dans la rivière Kibali, dans le Haut-Touélé. Leur embarcation quittait Ouata pour Durban quand elle a coulé. Le nombre des passagers à bord reste inconnu pour l'heure, faute des manifestes. Information livrée par le caucus des députés provinciaux de Ouata. Un cas confirmé des monkeypox signalé au Congo central et 85 cas suspects. La variole de singe touche 16 zones de santé sur les 31 que compte cette province. Le ministre provincial de la Santé rassure, un plan de riposte d'urgence est en cours. Et puis, l'invité de ce midi, Patrick Moulet-Bois, chargé de l'éducation agricole au sein de la brigade des jeunes de l'Institut africain de leadership agricole au Kassai oriental. Il nous parle de la sensibilisation que mène son institution pour inciter les jeunes à opter pour l'enseignement agricole. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par ce drame dans la province du Haut-Touélé. 13 personnes sont mortes noyées dans la rivière Kibali. Le drame est survenu hier dans la matinée au moment de la traversée sur une barque de fortune. L'embarcation quittait Ouata pour la cité minière de Durba. Le récit de Jacques Moukonkolé.
D'après des témoins, le trafic entre Ouata et Durba est intense en raison des diverses activités lucratives que la population exerce dans la cité minière. Le pont s'étant effondré depuis plus d'une année, la population préfère prendre n'importe quelle embarcation pourvu qu'elle arrive à destination, déclare un membre de la société civile locale. Le nombre de passagers à bord reste indéterminé, faute de manifestes, regrette les caucus des députés provinciaux de Ouata qui avancent un bilan de 13 morts et plusieurs rescapés dans un communiqué de presse. Selon le même document, le bilan officiel n'est pas encore établi ni publié suite au manque de manifestes établis par l'armateur et validés préalablement par les services publics attitrés. Concernant la cause de ce drame, la députée provinciale élue de Ouata, Françoise Azarokani, pense qu'il serait causé par des vagues de la rivière Kibali en crue à cause de la fréquence des pluies pendant cette période. Dans le même communiqué publié hier à Isiro, le caucus des députés provinciaux de Ouata recommande au gouvernement provincial de diligenter une enquête en vue de déterminer les responsabilités et éventuellement sanctionner les coupables. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Entre-temps, à Goma, plusieurs acteurs appellent les autorités provinciales à finaliser les infrastructures routières en chantier en ce début de saison des pluies. Un appel qui fait suite à la mort de deux personnes noyées dans un puits perdu inachevé au bord de la route principale de Majengo après la pluie de vendredi dernier. Les acteurs de la protection civile en collaboration avec les jeunes du milieu ont vidé samedi matin ce puits pour retirer les deux corps. Mais dans quel état est ce puits perdu et que faire pour éviter des nouvelles stratégies, nouvelle tragédie, voulais-je dire, Rosalie Zawadi.
Selon les estimations, ces puits, d'une superficie d'environ 40 mètres carrés, est une véritable nasse. Creusé au bord de la route, il recueille les eaux des ruissellements du territoire de Nyiragongo et devient un véritable lac lors de fortes pluies. Thierry Gassisiro, de la Société civile de Nyiragongo, demande aux autorités de finaliser les travaux lancés depuis près d'une année maintenant à ces niveaux.
Malheureusement, après que le gouverneur de province avait lancé les travaux de réhabilitation de cette tronçons routières. Dès lors, rien n'avait suivi comme travaux. C'était juste des cérémonies et des lancements des travaux de réhabilitation où on avait déposé beaucoup de pierres sur cette chaussée-là qui était déjà en état de délabrement. Après le départ du gouverneur, rien n'avait été fait.
Ces drames n'est malheureusement pas isolé. Les députés nationaux Mumbere Bonapua estiment qu'au moins 10 personnes ont déjà perdu la vie à cause de ces infrastructures incomplètes. D'autres acteurs recommandent aux autorités de canaliser ces eaux meurtrières jusqu'au lac, car les puits perdus ne sont pas une solution durable au problème à cet endroit précis. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Par ailleurs, les accidents de circulation sont de plus en plus nombreux sur les différentes artères de la province du Haut-Katanga. Pour y faire face, la ministre provinciale de Transport multiplie des rencontres avec ses services techniques. Elle a réuni vendredi les représentants de la police de circulation routière, ceux de la Commission nationale de la prévention routière CNPR et les syndicats des chauffeurs. Objectif, chercher les causes et proposer des solutions afin de préserver les vies humaines. Pour le chargé de la technique à la CNPR, il est temps de prendre des mesures qui s'imposent pour lutter contre ces accidents à répétition. Christophe Lia le dit à Jean Gandou.
Ces derniers temps, nous avons une recrudescence des accidents des circulations sur plusieurs axes du Haut-Katanga, notamment sur la nationale numéro 1 de Lubumbashi à Kasumbalesa et de Lubumbashi à Likasi. Il y a lieu de prendre des mesures pour que nous puissions réduire sensiblement les accidents des circulations. D'ici là, nous allons commencer des descentes sur le terrain avec son Excellence à la tête pour contrôler d'abord les chargements, obliger tous les conducteurs de passer au recyclage, de diminuer aussi les chargements à partir de nos parkings interurbains, même les petits véhicules qui transportent les marchandises, quand ils vont mettre leurs marchandises au-dessus, ils ne doivent pas dépasser un mètre de hauteur parce que c'est à partir des chargements qui déséquilibrent aussi les véhicules et qui fait un accident. Parfois aussi, les chargements ou la surcharge est à la base des pannes techniques.
Je vous le disais en titre, la province du Congo central compte à ce jour un cas confirmé de monkeypox et 85 cas suspects. Ces malades présentent des symptômes de la variole de singe, notamment des éruptions cutanées, fièvre et autres, enregistrées dans 16 zones de santé sur les 31 que compte le Congo central. Le ministre provincial de la Santé qui l'annonce appelle la population à observer des mesures barrières. Docteur Ovid Yobila rassure que le gouvernement provincial et la division provincial de la santé travaille avec détermination pour mettre en place urgemment un plan de riposte. Le ministre provincial de la santé du Congo central est au micro de Nana Plurich Mambou.
Depuis un certain temps, notre province est touchée par une épidémie de Mpox. La situation en ces jours se présente comme suit. 85 cas suspects enregistrés dans les zones de santé de Kangou, Kisantu, Bomabungu, Lukula, Boma, Nsonampangu, Luozi, Massa, Nzanza, Mwanda, Inga, Nselo, Bokokivulu, Kulungongo, Gombe Matadi et Sekebanza. Un seul cas testé est confirmé positif par l'Institut national de recherche biomédicale. La maladie se manifeste par l'apparition de symptômes ci-après. Fièvre, douleur musculaire, douleur dorsale, maux de tête, maux de gorge, manque d'énergie, des éruptions cutanées sous forme de boutons sur les paumes des mains ou les plantes des pieds ou sur tout le corps. Chers tous, protégeons-nous contre cette maladie en respectant les mesures barrières suivantes. Laver les mains régulièrement avec de l'eau propre et du savon ou de la cendre ou appliquer un gel hydroalcoolique. Notre gouvernement et les services de la santé de la province travaillent depuis plusieurs jours avec détermination et efficacité pour mettre en place un plan de riposte visant à enrayer la flambée épidémique de Mpox sur toute la province.
Province du Tanganyika, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques, SINECAT, et le syndicat des enseignants de carrière, SEC, suspendent la grève des enseignants. Ils l'ont fait savoir hier au cours d'une réunion à Kalemie. Le porte-parole de l'intersyndicale des enseignants dans le Tanganyika confirme la reprise des activités scolaires dès demain lundi, après une semaine de grève sèche. Bruno Jubikilai donne ici les raisons de cette suspension de la grève. Il est joint par Paulin Munanga.
Après l'évaluation, nous avons constaté qu'il y a eu des avancées parce que les premiers enseignants dans la République ont déjà commencé à toucher la prime de gratuité qui était en principe l'une des revendications aussi pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Et la deuxième partie, c'est le paiement de l'ajout sur les salaires. Les fonds pour la paie complémentaire du mois d'août est déjà domicilié dans les comptes des opérateurs de paie. Donc nous avons pensé qu'il n'y avait plus d'objection pour pouvoir suspendre momentanément notre mouvement de grève. Nous allons évaluer encore l'évolution de la paye au courant de la semaine et nous allons encore nous retrouver samedi pour une nouvelle évaluation. Mais on précise que cette suspension, elle est momentanée et elle va permettre justement que nous puissions suivre l'évolution de la paye avec les opérateurs de paye. Et à partir de demain, le lundi, tous les enseignants membres du SINECAT et des SEC reprennent demain le chemin de service.
Retour au Nord Kivu. La jeunesse s'engage à accompagner les autorités pour restaurer la paix dans l'est de la RDC. C'est la principale recommandation du symposium sur la paix qui a réuni pendant 3 jours à Butembo des jeunes de la partie Grand Nord de la province. Cette activité organisée par le Parlement des jeunes du Nord Kivu visait à susciter l'implication de la jeunesse en tant que locomotive pour la pacification de la région. Reportage de Grévis Salomon.
Parmi la centaine de participants figuraient les différentes autorités politico-administratives, militaires, policières, sanitaires, ainsi que les représentants de la société civile et la jeunesse des villes de Beni, Butembo et des territoires de Beni et Lubero. Ensemble, ils ont abordé des questions liées à la responsabilité des jeunes pour vaincre l'insécurité. Jordan Mugisha, président du Parlement des jeunes du Nord Kivu, parle du sens de cette activité.
Nous sommes en train de traverser une situation très difficile où ce sont les jeunes qui sont en train d'être cités dans tous les mafias qui puisse exister. Et vous comprendrez que la jeunesse est la plus utilisée dans les matières de conflit. On a pointé le doigt la question de la collaboration civilo-militaire qui doit être renforcée pour essayer de mener les actions ensemble.
Les participants s'engagent à sensibiliser à leur tour leur communauté au vivre ensemble et à la non-violence. Danny Mwindo est le président du Parlement des jeunes dans les territoires de Lubero.
Ça nous pousse à connaître que nous jeunes, nous sommes appelés à faire la paix chez nous, à ne pas être manipulés par les gens qui ont leurs intérêts propres. Nous allons aller réunir d'autres jeunes pour les rappeler à ne pas être manipulés, à ne pas adhérer à des mouvements qui vont déstabiliser notre territoire.
Beni, Grévis Salomou, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, ce mini-forum consacré exclusivement aux investissements dans la ville de Kinshasa, c'était en marge du grand forum Chine-Afrique qui s'est tenu du 3 au 6 septembre à Beijing. Celui de la capitale congolaise a comme thème Kinshasa, l'Eldorado des investissements. Le forum économique RDC-Chine a été une occasion propice pour le gouverneur Daniel Bumba de présenter la situation de sa ville, d'autant plus que cette métropole a besoin des investisseurs pour son évolution. Le compte-rendu de Étienne Lissoumou.
Au cours de cet événement organisé à l'ambassade RDC en Chine, Daniel Bumba s'est appesanti sur les différents secteurs qui font l'objet de son plan de redressement de la ville de Kinshasa. C'est notamment les secteurs des énergies renouvelables, du tourisme, de l'agriculture et de l'industrie pour ne citer que cela. L'objectif étant pour le gouverneur de Kinshasa de tenter de transformer l'environnement de la capitale congolaise. De ce fait, il a lancé un appel pathétique aux investisseurs chinois présents dans la salle afin qu'ils accordent une attention particulière à la ville de Kinshasa. En effet, la capitale congolaise offre de multiples opportunités d'affaires, ce qui nécessite à cet effet la sécurité et une garantie des bons climats des affaires. C'est à quoi le gouverneur Daniel Bumba n'a pas manqué de donner toutes ses assurances. Notons que ces assises de Chine ont été une occasion propice, non seulement pour l'RDC en général, mais surtout pour la ville de Kinshasa et son gouverneur en particulier, d'élargir la coopération avec les investisseurs chinois dans les différents secteurs de la ville.
Direction la province de l'Équateur, lancement hier à Mbandaka du projet dénommé « Vers un leadership des jeunes peuples autochtones pygmées pour les terres, le climat et la biodiversité en RDC », une initiative de l'ONG Union pour le développement des minorités Ekonda. L'objectif est de vulgariser les différentes lois existantes en faveur des peuples autochtones et leur sensibilisation sur les droits et devoirs. Le projet vise d'abord la ville de Mbandaka et le centre du territoire de Bikoro avant son extension à travers les provinces du pays. Et Paul-Richard Malengela, reportage.
Certes, les instruments juridiques abondent en faveur des peuples autochtones pygmées en RDC, mais le jeune avenir de ce peuple les ignore encore, a indiqué le coordinateur national de l'UDM. Le sensibiliser devient alors le leitmotiv de ce projet, précise Dieudonné Koloto.
Nous avons constaté que les peuples autochtones n'arrivent vraiment pas à comprendre les enjeux actuels sur les questions du climat, la terre, la forêt. Et nous avons conçu ce projet pour que nous puissions les sensibiliser, pour qu'à la longue, s'il y a des actions ou des questions qui touchent leur vie, qui ne soient pas surpris de tout ça.
Présent à la cérémonie de lancement, le vice-président du groupement Ngele Ntando Mbandaka a exprimé son approbation à ce projet, Marcel Ilomba.
Nous, les chefs coutumiers, nous sommes très contents du projet, puisque ça va renforcer la capacité du peuple autochtone
et ça va aussi nous aider à bien collaborer avec eux pour une bonne compréhension de la gestion des forêts.
Enfin, l'autorité provinciale, représentée par le directeur de cabinet du ministre provincial de l'Intérieur, Tosi Ruyoka, réserve le même appui du gouvernement provincial pour l'épanouissement du leadership des PA à l'Équateur.
C'est un projet important pour nous parce que ceux qui gèrent vraiment la forêt, ce sont les peuples autochtones, surtout ceux qui sont dans les territoires. Lorsque les jeunes seront sensibilisés, ils auront la connaissance, les droits et devoirs de ce peuple. J'espère que ces jeunes vont aussi apporter quelque chose au développement de notre province.
Bondaka pour Chamalingela Radio Okapi.
Actualité internationale. Les récentes précipitations et inondations en Afrique de l'Ouest ont contraint près de 950 000 personnes, dont de nombreux enfants, à fuir leur foyer au Mali, au Nigeria et au Niger, signale l'ONG Save the Children. Alors que cette période est généralement la plus pluvieuse de l'année dans cette région, les pluies ont été exceptionnellement abondantes, provoquant des dégâts considérables dans quatre régions du Mali. Ces événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents en raison de la crise climatique, selon l'ONG britannique.
L'invité.
Il nous vient du Kasaï oriental. La brigade des jeunes de l'Institut africain de leadership agricole sensibilise les jeunes à opter pour l'enseignement agricole. Au cours de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, les ingénieurs de cette brigade ont indiqué que l'agriculture est considérée comme une corvée par les jeunes à cause du comportement de certaines écoles qui utilisent la houe pour punir les élèves. Patrick Moulebois, chargé de l'éducation agricole au sein de la brigade des jeunes de l'Institut africain de leadership agricole, s'entretient à ce sujet avec Esther Dalafina.
Bonjour Patrick Moulebois. Au cours de cette journée d'échange, vous êtes intervenu sur l'éducation agricole. Qu'est-ce que cela signifie?
Oui, bonjour, merci beaucoup. En rapport avec l'éducation agricole, nous pouvons dire que c'est l'un des départements de la brigade des jeunes ALI. Nous avons 5 départements techniques, bien sûr. Nous avons la production végétale modernisée, nous avons la production animale et piscicole, nous avons la mécanisation agricole, nous avons la transformation à valeur ajoutée ainsi que l'éducation agricole dont il est question ici avec vous. L'éducation agricole a vu jour grâce à l'initiative de notre président Sanguine Kateranya, et c'est grâce au programme STEP, Star, DEM et les programmes. Donc commencer avec les très tôt, commencer avec qui? Avec les plus jeunes. Pourquoi? C'est juste pour changer la mauvaise perception qu'a les jeunes vis-à-vis de l'agriculture. Donc beaucoup de jeunes considèrent l'agriculture comme étant une corvée, comme une punition, comme un passe-temps, comme un métier de pauvres, ainsi de suite. Et plus loin, il y a aussi les écoles qui favorisent ce que les jeunes ont déjà dans leur tête en faisant quoi? C'est en punissant un élève en donnant la roue. Donc si un élève venait en retard, pour punir cet élève-là, on lui donne la roue pour qu'il cultive. Et ça aussi, on est en train d'inculquer dans la tête de l'enfant que non, l'agriculture est une punition.
Qu'est-ce que vous faites pour changer cette mauvaise perception?
C'est d'abord intervenir dans les écoles. Comment? On entre d'abord en contact avec les inspecteurs pour d'abord leur demander la permission ou l'autorisation de passer dans les écoles. Pourquoi encore? C'est juste parce que leur rôle est de faire le suivi et évaluer aussi les interventions qui se font dans les milieux scolaires. Donc STEP ou l'éducation agricole intervient à 3 niveaux. Nous avons d'abord le premier niveau, c'est au niveau du système éducatif. Là, l'éducation agricole aide à améliorer le curriculum scolaire. Comprenons par là que nous allons nous focaliser beaucoup plus sur la pratique et non la théorie. Dans les écoles techniques, il y a peu d'heures de la pratique et beaucoup d'heures de la théorie. Maintenant, nous sommes là pour valoriser les heures pratiques avec nos formations et aussi nos pratiques, surtout la pratique sur terrain.
Vous avez des champs d'expérimentation où vous amenez les élèves? Ce sont les écoles qui ont des champs d'expérimentation.
Faisons l'identification des écoles techniques organisant l'option agriculture. Donc nous nous basons sur les potentialités qu'offrent les écoles. Donc par exemple, lorsque nous nous présentons dans une école, nous voyons d'abord ce que l'école a en son sein, le nombre d'hectares de l'école et aussi le nombre d'hectares alloués à la pratique. Nous mettons aussi beaucoup plus l'accent sur l'élevage. Nous voyons si l'école a une ferme, si l'école a une unité de transformation, les matériels de la mécanisation, que ce soit la grande ou la petite mécanisation. Nous voyons aussi si l'école a une connexion Wi-Fi, un laboratoire d'informatique. C'est juste parce que dans nos interventions, avec nos nouvelles technologies, il y a aussi une branche de l'agriculture digitale, donc l'agriculture numérique. Il y a certaines applications qui permettent d'identifier et proposer même les pistes de solutions des maladies. et c'est pourquoi nous mettons encore beaucoup plus l'accent sur les laboratoires informatiques et aussi la connexion Wi-Fi. Et maintenant, dans la valeur ajoutée, mettons beaucoup plus l'accent sur l'unité de transformation. C'est juste pour valoriser aussi, parce que nous ne pouvons pas seulement nous baser sur la production et non sur la transformation. Nous connaissons très bien, lorsque nous transformons, il y a déjà une valeur ajoutée. Un exemple palpable, si vous avez les maïs, si vous voulez vendre les grains, ça ne sera pas au même prix que la farine.
Et lorsque vous arrivez dans les écoles où il n'y a pas tout ce que vous venez d'énumérer, tel que le Wi-Fi, qu'est-ce que vous faites alors?
Il y a les écoles qui en ont et d'autres écoles qui n'en ont pas. Maintenant, comment est notre politique? Nous commençons d'abord par les écoles qui ont déjà quelque chose, parce que nous, notre politique n'est pas de donner, mais nous sommes en train de former les élèves à l'idée de l'agribusiness. Donc, couper quand même la main qui est toujours tendue vers l'extérieur. Par exemple, nous avons déjà ciblé une école qui répond déjà aux critères dans lesquels nous avons déjà commencé à intervenir. Donc, les écoles qui ont été ciblées en première position constitueront des écoles pilotes. Donc, lorsque nous avons déjà commencé à intervenir là, une fois que nous avons impacté, d'autres écoles commenceront maintenant à venir là pour apprendre encore davantage. Donc, ces écoles-là seront pour nous les écoles pilotes.
Patrick Moulebois, je vous remercie.
Merci beaucoup, Maman Esther. Merci.
Le chargé de l'éducation agricole au sein de la brigade des jeunes de l'Institut africain de leadership agricole au Kassai oriental répondait aux questions de Esther Dalafina. Ainsi prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima Aouta. À la mise en onde d'Eps Vita, Belinda Bossouma vous l'a présenté. Merci d'avoir été des nôtres.